Bonsoir à tous et merci de rester fidèles au programme du studio Kalangou. Nous sommes mercredi 6 octobre 2021, il est 17h, l'heure du journal en français. Au micro, je suis Rukait Abdraman. L'indice synthétique de fécondité par femme au Niger a baissé de 18% en 2021 selon les résultats provisoires de l'enquête nationale sur la fécondité réalisée par l'Institut national de la statistique. À suivre les détails dans ce journal. Dans le département d'Abalak, région de Tawa, le bilan des feux de brousse de la semaine passée fait état de 100 000 hectares de fourrage brûlés, à suivre le directeur départemental de l'environnement sur les conséquences environnementales. En partie magazine de cette édition, un fact-checking sur des rumeurs selon lesquelles le vaccin serait un moyen de contrôler la natalité. Les principaux résultats préliminaire de l'enquête nationale sur la fécondité et la mortalité des enfants de moins de 5 ans effectuée par l'Institut national de la statistique sont connus. Il ressort que l'indice synthétique de fécondité par femme ainsi que le taux de mortalité juvénile des enfants de moins de 5 ans ont baissé en 2021. Rafika Taher pour les détails.
L'enquête nationale effectuée par l'Institut national de la statistique sur les principaux facteurs déterminants de la fécondité et de la mortalité des enfants de moins de 5 ans au Niger révèle les résultats préliminaires suivants. Le Niger a fait des progrès importants au cours de la dernière décennie 2012-2021 dans la baisse de la fécondité des femmes nigériennes, surtout en milieu rural. Ainsi, le nombre moyen d'enfants par femme est passé de 7,6 enfants par femme en 2012 à 6,2 enfants en 2021, soit une baisse de 18%. Il faut aussi noter qu'il a été observé dans les mêmes résultats préliminaires de l'ENAFEM une légère baisse du quotient de mortalité des enfants des moins de 5 ans. Il est passé de 127 pour 1000 en 2012 à 123 pour 1000 en 2021. La mortalité des enfants âgés de 1 à 4 ans a donc baissé de 81 pour 1000 en 2012 à 55 pour 1000 en 2021.
Le département d'Abalak dans la région de Tawa a connu plusieurs feux de brousse la semaine dernière. Sur les 4 communes touchées par cet incendie géant, le bilan fait état de 100 000 hectares de fourrage brûlés. La population dont la principale activité économique est l'élevage fera face à d'énormes difficultés cette année, selon le directeur départemental de l'environnement, le lieutenant-colonel Hassan Cheibou, interrogé au téléphone par Ali Tajissir.
On est à 24 cas pour 4 communes touchées sur les 5 du département, soit 112 333 hectares brûlés. Et il y a deux communes principalement les plus touchées, la commune urbaine même d'Abalak, qui est dans les 78 000 hectares brûlés pour la commune urbaine. La deuxième commune, c'est la commune rurale de Azeï, qui a aussi plus de 32 000 hectares brûlés. Les causes, c'est les causes traditionnelles qu'on a toujours soulevées. C'est un feu généralement qui échappe de la cuisine. Ça peut être le thé, comme les éleveurs sont pratiquement tous preneurs du thé. Les conséquences, elles sont énormes. Nous sommes en zone pastorale. Et qui dit zone pastorale dit fourrage. Un éleveur, s'il n'y a pas de fourrage, sa survie est menacée.
Les feux de brousse qui ont consumé une large part du pâturage d'Abalak la semaine dernière inquiètent les autorités de Maradi. La commune rurale de Bermo a déjà connu des feux de brousse, a indiqué le directeur régional de l'environnement de Maradi. Plusieurs raisons peuvent expliquer le déclenchement d'un feu de brousse, a déclaré colonel Hamadou Amadou au micro de Mohamed Mama.
C'est tout à fait normal que nous soyons inquiétés parce que l'espace pastoral est partagé entre Maradi, Tawa, Agdez et Zender. C'est vrai, parfois il y a des accidents, mais parfois, de par notre expérience, il y a aussi du sabotage entre éleveurs. On n'arrive pas à expliquer cet esprit qui continue toujours à être cultivé au milieu de ces communautés. Tout récemment, le 2 ou le 3, c'était le grand scandale parce que c'est un feu qui a embrasé la zone de Bermond et la zone d'Abalak. Et ça fait plus de 900 hectares pour le seul fait. Pour ce qui est de Maradi, le fourrage a bien réussi cette année. Mais malheureusement, c'est en train d'être consumé par le feu déjà. On peut dire qu'il y aura déficit parce que d'abord, nous avons un cheptel très important. Les feux viennent s'ajouter à ce gap qui existe déjà. C'est que le creux ne fait que s'enfoncer.
La situation de la campagne agricole à la troisième décade du mois de septembre 2021 de la région de Zender se caractérise par des précipitations faibles enregistrées au niveau de certains postes selon le responsable régional de l'agriculture. La situation phytosanitaire, elle, se caractérise par des attaques des ennemis de culture dans pratiquement tous les villages agricoles. Ibrahim Moussa, le directeur régional de l'agriculture de Zender, il est au micro de Ali Keita.
Sur le plan pluviométrique, elle a été marquée par des précipitations enregistrées au niveau de certains postes suivis de la région de Zender. Le cumul décadaire varie de 3 mm enregistré au niveau des postes de Barawa, Kasga, c'est dans le département de Kantié, et Zagi, dans celui de Dungas, à 27,3 mm en deux jours au niveau du poste de Gazabalé, dans le département de Gouré. Le cumul général varie de 132 mm en 22 jours, donc dans la ville de Tanout, à 857 mm en 27 jours à Bouchéri, c'est dans le département de Méria. La situation phytosanitaire a été caractérisée au niveau de la région des Zander au cours de des insectes floricoles, des punaises, des chenilles mineuses de l'épi, des foraires, des tiges, mais aussi des sauteriaux.
Les jardins des producteurs d'oignons de Kirozérine dans la région d'Agadez sont victimes d'attaques de criquets depuis quelques jours. De l'avis de certaines personnes rencontrées, la situation est préoccupante. Elles demandent l'aide des autorités pour juguler cette menace. On les écoute au micro d'Amina Idi.
Par rapport aux criquets qui attaquent les cultures dans les jardins, c'est tous les jardins qui sont concernés. Certaines personnes ont même abandonné leur jardin. Vraiment, il faut qu'on leur vienne en aide. De Kampala, Tunga, Nduna, Nturduan, tous les propriétaires des jardins. Il faut avoir pitié.
Vraiment, les criquets ont fait beaucoup de dégâts. À notre niveau, nous avons fait beaucoup de choses. Ici, dans la région de Turo, on a donné des pesticides à maintes reprises. Malgré ça, les criquets ont fait des ravages. Chaque matin, nous sortons des bidons de 25 litres de pesticides. Les agents de l'élevage ont fait de leur mieux. Pour le moment, ça va. Une grande partie de ces criquets a été exterminée.
Lancement ce matin à Niamey du projet de la rééligibilité du Niger au Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix pour la période 2021-2025. Le pays bénéficiera de 9 millions de dollars américains, soit plus de 5 milliards de francs CFA pour exécuter un certain nombre de projets dans les régions de Tillaberi, Maradi et Zender. Des précisions sur ce projet avec Attaher Mega, représentant de la FAO au Niger, des propos recueillis par Tarnan Foudé Ahmed.
Sous le leadership des autorités nationales qui ont mené ce plaidoyer-là et aussi sur la base des résultats qui ont été atteints par les différents projets, ça a permis vraiment de bâtir un dossier solide pour que le Niger soit rééligible et cela a été fait. Nous ne pouvons rien faire s'il n'y a pas la paix. Et toute action qui contribue à consolider la paix est vraiment la base qu'il nous faut afin de répondre aux défis sécuritaires, aux défis de développement du Niger. Donc vraiment, nous nous réjouissons de cette rééligibilité. Il y a déjà trois projets qui seront mis en œuvre dans le cadre du nouveau portefeuille qui portent sur l'utilisation, les conflits reliés à l'utilisation des ressources naturelles, la résilience. C'est vraiment une bonne nouvelle que nous saluons.
Quelles sont les régions concernées par ces projets?
Il y a la région de Maradi, la région de Zender et Tillaberi.
Les élèves nigériens ont repris le chemin de l'école le lundi dernier. À l'école Hassan Banaba, un établissement spécialisé pour les élèves sourds et malentendants, ils sont 37 élèves repartis de la 6e à la 4e. Ceux qui passent en 3e sont contraints de poursuivre un cursus normal dans un autre établissement avec d'autres élèves non sourds. Le principal problème reste l'inclusion, selon le directeur de l'école Seibou Aoudi.
Avant 2007-2008, le plus grand niveau d'un élève sourd, c'est la classe de CM2. À partir de CM2, c'est l'association qui va s'occuper de, comme vous constatez dans les hôpitaux, devenir des agents de sa liberté dans les services publics. Au collège, les difficultés sont beaucoup liées à la communication. Là-bas, c'est l'inclusion. Les enfants sourds apprennent avec les non-sourds. Je prends l'exemple au collège, l'enfant a jusqu'à 7 professeurs. Sur les 7, peut-être 1 ou 2 sont initiés en langue des signes. Alors, si le professeur vient, il oralise les sourds et ils ne sont pas inclus. Ou bien, quand le professeur vient, il signe seulement, il ne parle pas. Là, maintenant, les enfants en tendance, c'est eux qui seront en situation de handicap. Donc, l'enseignant qui est dans une classe spécialisée pour sourds doit être un enseignant qui oralise et en même temps qui signe. Là, on peut dire que son éducation est inclusive.
Dans son programme de renforcement des capacités de ses médias partenaires, le studio Kalangou a débuté ce jour sa 9e formation à l'endroit de 15 journalistes des radios partenaires en réalisation d'émissions interactives. Écoutons Aliou Abdou, le chargé de formation des médias partenaires du studio Kalangou.
L'un des objectifs du studio Kalangou, c'est de renforcer les capacités des médias partenaires pour en faire d'eux des acteurs reconnus du paysage médiatique. C'est dans ce contexte-là que nous avons conçu en début d'année un plan annuel de formation que nous tentons de mettre en œuvre. Cette formation, la 11e, vise à renforcer les capacités des médias partenaires sur la réalisation d'une émission interactive. Comment préparer une émission interactive? Comment conduire une émission interactive? Vous n'êtes pas sans le savoir, ces types d'émissions permettent à l'animateur, aux journalistes, d'interagir avec des auditeurs, soit à travers des appels ou bien à travers des messages. Donc comment faire en sorte que cette émission soit très bien conduite? C'est dans ce souci que nous avons invité 15 médias partenaires pour renforcer leur capacité dans la conduite de ce type d'émission.
Place à présent à la partie magazine de cette édition. Avec l'avènement de la maladie à coronavirus au Niger, nombreuses sont les rumeurs qui sont véhiculées sur le vaccin contre le Covid-19. Parmi ces rumeurs véhiculées, le vaccin serait un moyen de contrôler la natalité, suivant ce fact-checking de Farid Bourema.
Depuis l'apparition du premier cas de Covid-19 en mars 2020 au Niger, les rumeurs ne cessent de se répandre sur la maladie. Certaines personnes continuent encore à être sceptiques à propos des vaccins. Par contre, d'autres estiment ne pas être influencés par ces fausses rumeurs.
Un peu partout, des scientifiques nous font savoir que ce sont des maladies créées et que vraiment c'est juste pour contrôler les gens. Et puis, ça nous fait peur, quoi. Il paraît que c'est plutôt même le système immunitaire qu'on est en train de détruire. Certains scientifiques nous ont vu, on a vu des vidéos qui circulent un peu partout. Et c'est ce qui nous fait peur. D'un côté, on nous dit que c'est une maladie, ça se soigne, on faut se vacciner. Et de l'autre, on nous dit qu'attention, c'est dangereux. Bon, on ne sait même pas où donner de la tête. C'est pourquoi vraiment, on attend voir, on est vraiment prudent.
Vraiment, je ne me suis pas fait vacciner, mais ce n'est pas à cause de la désinformation. Si j'avais eu la chance d'aller, je l'aurais fait, car ces rumeurs ne me font pas peur. Le fait de dire si on s'est fait vacciner, voilà les conséquences, ceci, cela, moi je ne crois pas. Je ne trouve pas de raison à ne pas se faire vacciner. C'est une affaire mondiale. Il est impossible que cette affaire de vaccin soit un simple mensonge.
Selon Dr Karadji Suleiman, le directeur du service d'aide médicale d'urgence SAMU, la population doit se référer aux directives des autorités sanitaires et ne pas tenir compte des rumeurs.
Moi, j'ai souvent des partages d'audio ou bien de vidéos venant de certaines personnes. Bon, pour vérification, entre guillemets, moi, je me dis, ma réponse est que toi, qu'est-ce que tu penses? Parce qu'il y a quand même des choses vraisemblables et d'autres pas. Il n'y a pas besoin de vaccin anti-Covid pour inoculer des choses à une population. Il y a d'autres moyens. Donc, sincèrement, il faut écouter les voix autorisées, il faut écouter les professionnels de la santé, les directives des autorités. Et vraiment, tout ce monde-là ne concourt qu'à un seul objectif, c'est la sécurité et la santé des populations.
À suivre à 18h15, le forum sur la vaccination contre la Covid-19. Quelle est la situation à Agadez, ville de transit des migrants? C'est tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse avec en compagnie d'Ali Tajissir pour le journal en tamashek.
Bonjour Fanta, tu sais que tu peux facilement écouter et réécouter les actualités en appelant gratuitement le 325 avec le service RTL?
Mais c'est génial, partout au Niger et uniquement si j'ai une puce RTL?
Exactement, il te suffit de composer le 325 sur ton téléphone et tu peux écouter mais également réécouter à tout moment des journaux, magazines, des messages sur la santé et sur l'hygiène.
Super, c'est vraiment intéressant.
Et ce n'est pas tout. Tu peux aussi sélectionner la langue de ton choix et suivre les instructions sur le 325.
Suivez les actualités, c'est sur le 325 avec RTL Niger.